Bonjour à tous et bienvenue sur Audit Droit. Aujourd'hui, on parle de droit de la famille, plus précisément des conditions de fond du mariage. On est avec Nettie Luvina, une étudiante en master en recherche droit privé à l'université Omar Bongo. Et il ne faut pas oublier, dans des épisodes précédents, on avait déjà abordé la question des unions paramatrimoniales, donc c'est-à-dire de l'union libre et des fiançailles. Et s'il y a union paramatrimoniale, c'est qu'il y a union matrimoniale, donc le mariage. C'est Nettie Luvina qui va nous parler des conditions de fond du mariage. Alors Nettie Luvina, si vous vous présentiez aux auditeurs d'Audit Droit de manière un peu plus exhaustive.
Si je devais me présenter, c'est-à-dire vous parler un peu de moi, je dirais que moi déjà, je n'étais pas destinée à faire des études de droit à la fin du lycée, j'étais destinée à faire des études de médecine. Si mon professeur de maths en secondaire ne m'avait pas dit que je n'avais pas cette discipline pour faire des sciences, je crois que j'aurais continué là-dedans.
C'est vrai, il a raison.
Il n'a pas du tout raison parce que je suis quand même venue m'inscrire dans une discipline scientifique à l'université.
D'accord.
Parce que le droit est une science. Et je pense que si j'en suis arrivée là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait preuve de discipline. Bien qu'il y ait eu des tumultes sur le chemin, j'ai fait preuve de discipline pour en arriver là où je suis.
D'accord. Donc à la base, on avait un médecin, mais qui est devenu juriste. Si vous nous parliez un tout petit peu des études de droit à l'université au Maroc, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est pas difficile?
Je ne dirais pas que c'est difficile parce que rien, moi, on m'a toujours appris que rien n'est difficile dans la vie si tu t'en donnes les moyens. Je dirais que si vous arrivez avec l'intention de véritablement travailler, de réussir en faculté de droit, vous y arriverez simplement. Si vous prenez la peine de maîtriser chaque concept, d'analyser chaque notion, de ne rien laisser passer, je crois que vous y arriverez.
D'accord. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux étudiants de droit de première année, par exemple, qui nous écoutent là tout de suite?
C'est de lire, de prêter attention à tous les cours, de ne pas négliger une seule matière, que ce soit une matière à TD ou une simple petite matière qui se complète. Chaque matière a son importance, chaque discipline. Parce que plus on avance, plus on se rend compte que les matières qu'on a laissées en arrière, elles ont leur importance dans la continuité des études. En fait.
D'accord, ok, merci beaucoup. Donc, tout à l'heure, on va aborder plus amplement le thème qui nous réunit ici aujourd'hui, les conditions de fond du mariage. À tout à l'heure. Alors, Nettie Luvina, les conditions de fond du mariage, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos du thème? Qu'est-ce que vous pensez du conditions de fond du mariage? Quelles sont les conditions de fond du mariage au Gabon?
On ne peut pas simplement commencer à parler des conditions de fond du mariage sans d'abord définir ce qu'on entend par mariage. Parce que chaque jour, dans nos sociétés, on voit les gens se marier. Mais qu'est-ce qu'on entend par mariage? Qu'est-ce qu'on entend par mariage? Comment définit-on le mariage? J'estime que chacun en a une acception propre, c'est-à-dire chacun peut définir le mariage comme il l'entend. Dans nos sociétés africaines, le plus souvent, on définit le mariage comme étant la réunion d'une seule et unique famille, c'est-à-dire qu'on passe de deux familles à une seule et même famille. Maintenant, sur le plan juridique, on définit le mariage comme étant à la fois une institution et un contrat. Une institution dans la mesure où elle est célébrée solennellement devant un officier d'état civil. Et elle doit remplir, avant d'arriver à la célébration du mariage, les époux doivent remplir certaines conditions nécessaires, ce qui donne le caractère institutionnel du mariage. Et le caractère contractuel, c'est dans le fait que chacun des époux consent à l'union matrimoniale. Chacun des époux consent à l'union matrimoniale. Chacun des époux décide de se lier l'un à l'autre.
Comme annoncé précédemment, avant que Madame ne tienne à donner la définition du mariage, on va parler des conditions de fond du mariage. Quelles sont les conditions de fond du mariage, Mademoiselle Nettie Luvina?
Les conditions des formes du mariage sont de trois ordres. Les conditions physiologiques, les conditions psychologiques et les conditions sociologiques.
D'accord.
Pour ce qui est des conditions physiologiques, elles ont trait à la personne physique même des époux.
D'accord.
C'est-à-dire leur âge, mm-hmm. leur sexe et leur état de santé.
D'accord.
En ce qui concerne l'âge des époux,
mm-hmm.
l'article 203 du Code civil dispose que les époux doivent être âgés de 18 ans révolus, aussi bien l'un que l'autre.
Quelle version du Code civil ?
La version de 2021 et
d'accord.
non celle de 1972.
D'accord, merci.
Pour ce qui est de l'état de santé des époux, l'article 220 veut que chacun des époux fournisse à l'officier d'état civil un certificat prénuptial, c'est-à-dire un certificat présentant leur état de santé, pour savoir si l'un est atteint d'une maladie,
grave
ou non.
D'accord.
Maintenant, pour ce qui est du sexe des époux, le Code civil ne dispose pas, n'a pas de disposition
claire,
proprement donnée mmh. sur qui explique que les époux doivent être de sexe différent. Mais on déduit cela des articles 203, 213 qui disposent par exemple que l'homme comme la femme doivent être âgés de 18 ans révolus.
L'homme comme la femme, pardon.
Oui, pour l'article, au niveau de l'article 203. Pour l'article 213 qui fixe l'interdiction de la bigamie, mmh. c'est-à-dire l'interdiction pour un homme ou une femme de contracter un second mariage, alors que sur le premier n'est pas révoqué. Et
tandis que sur le premier, il est marié au régime
de la monogamie.
D'accord.
Maintenant, pour ce qui est des conditions psychologiques, elles ont trait au consentement.
Ok.
Sur un de vos précédents podcasts, vous avez évoqué l'autonomie de la volonté.
Mmh.
Le consentement, pour contracter un mariage, le consentement ne doit pas être vicié, ça doit être un consentement
libre.
Éclairé.
Mmh.
C'est-à-dire les époux doivent choisir de contracter une union matrimoniale l'un avec l'autre. Ça doit être leur propre choix et non celui d'une autre personne.
D'accord.
Maintenant, il arrive des cas où ce soit nécessaire qu'une autre personne donne son consentement pour l'union matrimoniale. C'est le cas des mineurs, par exemple.
Mmh.
Est-ce que la majorité civile au Gabon étant fixée à 21 ans.
Selon les dispositions de l'article 492.
Oui.
D'accord.
La majorité matrimoniale est fixée à 18 ans. Ce qui signifie qu'un enfant de 18 ans ne peut pas lui-même décider tout seul de contracter mariage. Il aura besoin de l'autorisation des pères et mères pour contracter mariage.
D'accord.
Et on a aussi le cas des majeurs incapables. C'est-à-dire des personnes qui présentent par exemple une déficience physique ou une déficience mentale.
Mm-hmm.
Pour eux aussi, l'autorisation de l'un de leurs parents
est nécessaire
pour contracter mariage.
D'accord. Et pour ce qui est des conditions, parce que vous avez parlé des conditions sociologiques,
Pour ce qui est des conditions sociologiques, elles ont trait à l'interdiction de la bigamie, c'est-à-dire de
prendre un second mariage
alors que le premier n'est pas terminé et qu'on était marié sous le régime de la monogamie.
D'accord.
Et il y a aussi l'interdiction, la prohibition de l'inceste,
mm-hmm.
c'est-à-dire le fait par exemple pour moi de décider de me marier avec mon frère, c'est prohibé par la loi.
D'accord.
De la règle Kojet. La règle Kojet met en évidence le lien de filiation notoire. C'est-à-dire que si on est du même clan, l'appartenance clanique en fait suffit à l'empêchement de se marier. Si par exemple
tout le monde connaît qu'on est parenté,
voilà,
de manière notoire,
clan, en fait.
Du même
les
clan.
Les articles 216 et 217 prohibent le mariage
entre les personnes qui ont un lien de filiation notoire. D'accord.
Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle l'observation du délai de viduité. L'observation du délai de viduité veut que lorsque l'on divorce de sa précédente union, contracter de nouveaux mariages, il faut observer un délai de 300 jours avant de pouvoir à nouveau se marier. Sinon, le nouveau mariage sera considéré comme nul.
D'accord. Mais on ne peut pas déroger à ce aussi de la perpétuité. Par exemple, en apportant le test de tous, le test qui affirme que non, on n'est pas en grossesse. Parce que je pense que l'objectif du délai de viduité, c'est de dire que c'est en fait de ne pas faire en sorte qu'un enfant qui est né d'une précédente union aille dans une union, dans une prochaine union, par exemple, de la femme. C'est-à-dire que la femme n'aille pas avec une grossesse dans sa prochaine union. Je pense que... En fait, pour la femme qui serait potentiellement enceinte lors de la rupture de son mariage, le délai de viduité a pour objectif de faire en sorte qu'elle n'aille pas dans sa seconde union, lorsqu'elle va dissoudre sa précédente union, avec un bébé dans le ventre, histoire de se marier, puisque la paternité sera attribuée par défaut à son nouveau mari.
Oui, bien sûr. En fait, le délai de viduité peut être abrogé. On vous dit que ça peut être abrogé si la femme apporte la preuve qu'elle n'est pas enceinte au moment où elle veut contracter sa nouvelle union.
D'accord.
Ou alors si elle vient d'accoucher. La preuve se fait par...
Oui, le fait que si elle vient d'accoucher, elle peut plus mettre au monde un mois ou deux mois.
Voilà. Voilà.
D'accord. Ok. Merci beaucoup, mademoiselle Levine. Donc, on va passer à la phase de questions-réponses, comme de coutume sur le titre. Donc, mademoiselle Duvina, on est à la phase de questions-réponses et on avait une petite question à vous poser. Donc, bon, quelques petites questions à vous poser. On va commencer par l'autorisation ou bien la potentielle autorisation du mariage de même sexe, de personnes de même sexe au Gabon. Donc, on sait que en 2023, l'ancien régime qui existait déjà là avait pris devant le Parlement il y avait un projet de loi qui visait la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Donc on a envie de savoir quelle est la situation actuelle. Est-ce que les personnes de même sexe peuvent se marier au Gabon?
Déjà, je tiens déjà à rappeler que la dépénalisation de l'homosexualité ne signifiait pas pour autant que ces gens-là avaient le droit de se marier.
D'accord.
C'est-à-dire ces gens, les gens de même sexe avaient le droit de se marier. Merci. Excusez-moi. Ça ne signifiait pas ça. Et ensuite, au Gabon, les dispositions des articles 203 précisent bien que c'est un homme et une femme qui doivent se marier.
Donc une union de personnes de sexe différent.
Une union de personnes de sexe différent, pas des personnes de même sexe.
D'accord. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc les personnes de même sexe au Gabon n'ont pas le droit de se marier, vous l'aurez compris. Si vous êtes des personnes de même sexe, je vous conseille d'aller en France, c'est légal là-bas, c'est autorisé. On a abordé le consentement, mais on n'a pas abordé les vices de consentement. Donc on s'interrogeait, comment est-ce que le législateur ou bien le juge font pour protéger le consentement des individus? Parce que quelqu'un peut donner son consentement sans nécessairement vouloir donner son consentement. Ce consentement peut être extorqué. Comment est-ce que ça se passe?
Il faut déjà savoir que le vice, que le mariage est un contrat. Dans tout contrat, les vices de consentement connus sont disposés au sein de l'article 1100 du Code civil, à savoir l'erreur, le viol et la violence. L'erreur, je me souviens, mon prof en première année m'avait dit que l'erreur, je me suis trompée. Le viol, on m'a trompée. Il faut bien faire la distinction parce que les deux sont assez similaires. Mais le viol ne constitue pas une cause de nullité du contrat de mariage. Car comme disait Loïciel, un mariage trompe qui peut. Chacun vient avec ses artifices pour impressionner l'autre afin de contracter le mariage tout simplement. Donc le deuil ne peut constituer une cause de nullité du contrat de mariage. Et les seuls devises de consentement reconnus par le Code civil comme cause de nullité du mariage sont l'erreur et la violence. Et l'erreur, les erreurs reconnues par le Code civil sont l'erreur sur l'identité physique ou civile de la personne. C'est-à-dire si la personne vous a menti à utiliser les papiers d'une autre personne, par exemple, s'est présentée sous le nom d'une autre personne avant. Ou la profession d'une autre personne, par exemple, vous savez qu'il était militaire, alors qu'il vend les habits à la garantière. Il y a l'erreur sur l'état grave de santé du conjoint au moment de la célébration du mariage. C'est-à-dire si la personne ne sait pas, par exemple, dit qu'elle avait un cancer ou elle était drépanocytaire. c'est à cause d'une convivialité du mariage. Et il y a l'erreur sur la conformité physique d'un conjoint qui ne possède pas les organes nécessaires à la consommation du mariage. Je ne vais pas me marier avec quelqu'un qui n'est pas capable de me donner des enfants. Parce que je suppose qu'on se marie, c'est pour fonder une famille. Maintenant, en ce qui concerne la violence, personne ne va jamais accepter, en tout cas bon, personnellement, je n'accepterai jamais de me marier avec quelqu'un qui me contraint à le faire. La violence, c'est ça. Les violences physiques, les sévices. Quelqu'un qui vous oblige à vous marier avec lui, tout simplement. L'article 212 du Code civil dit bien que le consentement n'est pas valable s'il est donné par erreur ou extorqué par violence, ce qui concerne le contrat de mariage.
Merci beaucoup.